Chapitre 9. Mars 1975.
Minou, Minou,
dit Doucender.
Ici, Minou, Minou.
Psst, 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 psst.
Il était sous la véranda, derrière la maison, un bol en plastique rose près de son pied droit. Le bol était plein de lait. Il était 1h30, l'après-midi était chaud et brumeux. Loin vers l'est, des feux de broussailles répandaient un parfum d'automne qui jurait avec le calendrier. Si le gamin venait, il serait là d'ici 1 heure. Mais désormais, il ne venait pas toujours. Au lieu de 7 fois par semaine, c'était parfois 4, parfois 5. Une intuition lui était venue, peu à peu, et cette intuition lui disait que le gamin avait des ennuis.
« Minou, Minou !»
susurra Doucender. Le chat errant était de l'autre côté de la cour, assis dans les mauvaises herbes qui bordaient irrégulièrement la barrière. C'était un matou, aussi peu reluisant que les herbes qui l'entouraient. Quand il parlait, le chat pointait ses oreilles vers lui, sans jamais quitter des yeux le bol rose rempli de lait. Peut-être, se dit Doucender, que le gamin a des ennuis à l'école, ou des mauvais rêves, ou les deux. Ce qui le fit sourire.
Minou, Minou,
appela-t-il doucement. Les oreilles du chat s'inclinèrent une fois de plus. Il ne bougea pas encore, et continua d'observer le lait. Doucender avait ses propres ennuis, aucun doute là-dessus. Cela faisait environ 3 semaines qu'il mettait l'uniforme SS pour se coucher, comme un pyjama grotesque, et que l'uniforme le préservait de l'insomnie et des mauvais rêves. Il avait dormi, au début, comme une souche. Ensuite, les rêves étaient revenus, non pas progressivement, mais d'un seul coup, et pire que jamais. Des rêves de poursuite en plus des rêves avec des yeux. Il courait dans une jungle invisible, mouillée, où des feuilles énormes et des plantes humides le frappaient au visage et laissaient des traînées de sève, lui semblait-il, ou de sang. Courir, encore courir, constamment encerclé par des yeux brillants, sans âme, qui l'épiaient, jusqu'à ce qu'il arrive dans une clairière, sentant plutôt que voyant, dans l'obscurité, la pente raide qui commençait de l'autre côté de la clairière. En haut de la pente, il y avait Patine, ses maisons basses et ses cours en ciment, entourées de barbelés et de fils électrifiés. Ses tours de garde dressées comme des cuirassés martiens sortis de la guerre des mondes. Et au milieu, d'énormes cheminées vomissant des nuages de fumée. Et au pied de ces colonnes en briques, les fours étaient chargés, prêts à s'embraser, luisant dans la nuit comme des yeux féroces et démoniaques. On avait dit aux habitants de la région que les pensionnaires de Patine fabriquaient des vêtements et des bougies, et, naturellement, ils ne l'avaient pas cru. Pas plus que les voisins d'Auschwitz n'avaient cru que le camp était une usine de saucisses. Peu importait. Dans le rêve, en regardant par-dessus son épaule, il les voyait enfin sortir de l'ombre. Les morts à jamais sans repos. Les Juden se traînant vers lui les bras tendus. Leur numéro d'un bleu aveuglant sur la chair livide, les mains crispées comme des serres, les visages non plus vides, mais remplis de haine, animés par la vengeance, enflammés par le meurtre. Les tout-petits couraient avec leur mère, et les vieillards étaient portés par leurs enfants devenus grands. Sur tous ces visages, on lisait d'abord le désespoir. Le désespoir ? Oui, parce que dans les rêves, ils savaient, et eux aussi, qu'ils seraient à l'abri s'il arrivait en haut de la colline. En bas, dans cette plaine marécageuse et détrempée, dans cette jungle où les plantes à fleurs nocturnes dégouttaient de sang au lieu de sève, il était un animal pourchassé, une proie. Mais là-haut, il commandait. Alors qu'en bas, c'était une jungle, le camp au sommet de la colline était un zoo. Tous les animaux féroces étaient enfermés dans des cages, et il était le gardien-chef. À lui de décider lesquels il fallait nourrir, lesquels laisser en vie, lesquels envoyer au vivisecteur, lesquels conduire à l'abattoir dans le camion d'évacuation. Il commençait à escalader la pente, courant avec la lenteur propre au cauchemar. Il sentait les premières mains squelettiques se refermer sur son cou. l'haleine froide et putride. Il entendait leur piaillement de triomphe tandis qu'il s'écroulait, presque sauvé, le salut à portée de la main.
« Minou, minou, »
dit-il,
« du lait, du bon lait. »
Le chat finit par avancer. Il traversa la moitié de la cour avant de se réinstaller, mais timidement cette fois, la queue frémissante d'inquiétude. Il ne lui faisait pas confiance, non. Mais Doucander savait que le chat avait senti le lait, et il avait bon espoir. Tôt ou tard, il viendrait. À Patine, la contrebande n'avait jamais posé de problème. Certains prisonniers arrivaient avec des objets de valeur dans des sachets en daim cachés dans le cul. Et bien souvent, leurs objets s'avéraient sans valeur aucune. Photos, boucles de cheveux, faux bijoux, parfois enfoncés à l'aide de bouts de bois si loin que même les longs doigts du capot qu'ils avaient surnommés « doigts merdeux » ne pouvaient les atteindre. Une femme, se souvint-il, avait gardé un petit diamant, fêlé, en fin de compte, vraiment sans valeur, mais qui était dans sa famille depuis 6 générations, passant de la mère à la fille aînée. D'après elle, mais bien sûr, elle était juive et tous les juifs sont des menteurs. Elle l'avait avalé en arrivant à Patine. Quand il paraissait dans ses excréments, elle le ravalait. Le diamant finit par lui blesser les intestins et elle se mit à saigner. Mais elle continua. Il y avait eu d'autres ruses, mais la plupart ne servaient à dissimuler que des misères comme une provision de tabac ou un ou deux rubans pour les cheveux. Cela ne comptait pas. Dans la pièce où Doucander interrogeait les prisonniers, il y avait un réchaud et une accueillante table de cuisine recouverte d'une nappe à carreaux rouges, ressemblant beaucoup à celle de sa propre cuisine. Il y avait toujours sur ce réchaud une marmite de ragoût d'agneau qui mijotait délicieusement. Quand on suspectait une affaire de contrebande, et quand n'en soupçonnait-on pas, un membre de la clique suspecte était conduit dans cette pièce. Doucander se tenait près du réchaud, d'où émanait le fumet odorant du ragoût. D'une voix douce, il demandait « Qui ? Qui cache de l'or ? Qui cache des bijoux ? Qui a donné à la femme Givenet le comprimé pour son bébé ? Qui ?» Le ragoût n'était jamais explicitement mentionné, mais la promesse implicite et odorante finissait par délier les langues. Une matraque, bien sûr, en aurait fait autant, ou le canon d'un revolver enfoncé dans leur entrejambe crasseuse, mais le ragoût était élégant, oui.
« Minou, minou !»
Le chat dressa les oreilles, se leva à demi, puis se souvint à moitié d'un coup de pied déjà ancien, ou encore d'une allumette qui lui avait brûlé un côté de ses moustaches, et il se rassit. Mais il viendrait bientôt. Il avait trouvé le moyen d'apaiser son cauchemar. En un sens, c'était comme de porter l'uniforme SS, mais élevé à une puissance supérieure. Doucander était content de lui, regrettant seulement de ne pas y avoir pensé plus tôt. Il devait probablement remercier le gamin pour cette nouvelle méthode, pour lui avoir montré que la clé des terreurs passées n'était pas dans le rejet, mais dans la contemplation, et parfois même dans une sorte d'étreinte amicale. Certes, avant l'apparition surprise du gamin l'été dernier, il n'avait pas fait de mauvais rêves depuis longtemps. Mais maintenant, il pensait ne s'être accommodé de son passé qu'avec beaucoup de lâcheté, en se sentant obligé d'abandonner une partie de lui-même qu'il pouvait désormais revendiquer.
« Minou, minou !»
Un sourire apparut sur son visage. Un bon sourire. Un sourire rassurant. Le sourire de tous les vieillards qui ont réussi, à travers les cruautés de la vie, à trouver un endroit sûr alors qu'ils sont encore relativement intacts et qu'ils ont gagné quelque sagesse. Le matou se releva. Hésita un instant de plus, puis finit par traverser la cour d'un trot souple et gracieux. Il monta les marches, lança un dernier regard méfiant au vieil homme, aplatissant ses oreilles couvertes de croûtes et de blessures, et il se mit à boire.
Du bon lait.
Doucander enfila les gants de caoutchouc qu'il tenait en réserve sur ses genoux.
Du bon lait pour un gentil minou.
Il avait acheté les gants dans un supermarché, dans l'allée centrale où les femmes d'un certain âge lui jetaient des regards approbateurs, voire calculateurs, Les gants étaient passés en pub à la TV. Ils avaient des manchettes. Ils étaient si souples qu'on pouvait même ramasser une pièce de 10 cents en les portant. Il caressa le dos du chat d'un doigt en caoutchouc vert avec un murmure rassurant. La bête arqua le dos au rythme de ses caresses. Juste avant que le bol ne soit vide, il s'empara du chat. L'animal se convulsa, électrique, dans ses mains crispées, se tordant pour griffer le caoutchouc, parcouru de soubresauts dans tous les sens. Doucander se dit que si les griffes ou les crocs trouvaient une prise, le chat serait vainqueur. C'était un vieux briscard. « Ah bon chat, bon rat !» pensa Doucander en souriant. Tenant prudemment le chat à bout de bras avec le même sourire figé, Doucander ouvrit avec son pied la porte de derrière et entra dans la cuisine. L'animal grondait, se contorsionnait, lacérait le caoutchouc. Sa tête triangulaire, sauvage, plongea comme un éclair et s'accrocha à un pouce.
« Méchant minou !»
lui reprocha Doucander. La porte du four était ouverte. Il jeta le chat à l'intérieur. Les griffes crissèrent sur le caoutchouc vert. Doucander claqua la porte du four d'un coup de genou, réveillant douloureusement son arthrite. Pourtant, il garda le sourire. Respirant lourdement, presque essoufflé, il s'appuya un moment contre la cuisinière, tête baissée. C'était une cuisinière à gaz. Il l'utilisait rarement, sauf pour les dîners TV et pour tuer les chats errants. À travers les brûleurs, il entendait à peine les grattements et les rugissements du chat qui essayait de sortir. Doucander tourna le thermostat jusqu'au maximum. Il y eut un pop audible quand la veilleuse alluma en sifflant les deux rampes à gaz. Le chat cessa de gronder. Il hurla. On aurait presque dit, oui, un jeune garçon. Un jeune garçon souffrant horriblement. À cette idée, Doucander sourit plus largement. Son cœur tonnait contre ses côtes. Le chat griffait et tourbillonnait de façon insensée, en hurlant toujours. Une odeur de fourrure chaude, brûlée, se répandit dans la pièce. Une demi-heure plus tard, il extirpa du four les restes du chat, avec une fourchette à barbecue achetée 2,98 $ au magasin Grant du centre commercial à 1 000 de là. La carcasse rôtie atterrit dans un sac de farine vide, qu'il descendit dans la cave dont le sol n'avait jamais été cimenté. Doucander remonta bientôt de la cave et bomba la cuisine avec du déodorant jusqu'à ce qu'elle empeste le pain artificiel. Il ouvrit les fenêtres, lava la fourchette à barbecue et la raccrocha sur sa planche. Enfin, il s'assit, attendant de voir si le gamin allait venir. Il souriait sans arrêt. Effectivement, Todd arriva 5 minutes après que Doucander eut cessé de compter sur lui. Il portait un haut de survêtement aux couleurs de son école. Il portait aussi une casquette de baseball des San Diego Padres et ses livres de classe sous le bras.
« Burke, Burke !»
dit-il en entrant dans la cuisine, plissant le nez.
« C'est quoi cette odeur? C'est infect !»«
J'ai essayé le four, » dit Doucander qui alluma une cigarette. « Je crains d'avoir brûlé mon dîner. J'ai dû le jeter. »
Un jour, avant la fin du mois, le garçon arriva beaucoup plus tôt que d'habitude, bien avant l'heure de sortie de l'école. Doucander était dans la cuisine, buvant du bourbon Ancient Age, dans une tasse ébréchée, décolorée, avec « Voilà ton café ment, ha 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 » inscrit le long du bord. Il avait installé son fauteuil à bascule dans la cuisine et il buvait en se balançait en buvant, faisant claquer ses savates sur le linoléum défraîchi. Il se sentait agréablement ivre. Il n'y avait pas eu le moindre mauvais rêve jusqu'à la nuit dernière. Pas depuis le matou aux oreilles déchirées. Mais la nuit dernière avait été particulièrement horrible. Impossible de le nier. Il l'avait traîné en bas de la pente, alors qu'il était arrivé à mi-chemin. Et ils avaient commencé à lui faire des choses innommables avant qu'il réussisse à se réveiller. Pourtant, après son retour convulsif à la réalité, il s'était senti plus sûr de lui, capable de mettre fin au rêve à volonté. Cette fois, peut-être un chat ne suffirait pas.
mais il restait toujours la fourrière des chiens. Oui, la fourrière. Todd entra brusquement dans la cuisine, le visage tendu, pâle et luisant. Il a maigri, aucun doute, se dit Doucander. Et il y avait dans ses yeux une étrange lueur blanche qu'il n'aimait pas du tout.
« Vous allez m'aider !»
dit soudain le garçon, comme un défi.
« Vraiment ?»
répondit Doucander d'une voix douce, dissimulant un sursaut de terreur. Il resta impassible quand Todd jeta ses livres sur la table d'un geste brutal, hargneux. L'un d'eux glissa en tournoyant sur la toile cirée et tomba par terre, ouvert à l'envers, près des pieds de Doucander.
« Oui, vous avez foutrement raison !»
cria Todd d'une voix aiguë.
« Vous avez intérêt à le croire, parce que c'est de votre faute, entièrement de votre faute !»
Des taches rouges, fiévreuses, apparaissaient sur ses joues.
« Mais il va falloir que vous m'aidiez à m'en sortir, parce que j'ai tout ce qu'il faut sur vous. Je vous tiens et je vous lâcherai pas !»«
Je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider, »
dit calmement Doucander, s'apercevant qu'il avait joint ses mains juste devant lui, sans s'en rendre compte, comme il le faisait jadis. Il se pencha dans son fauteuil à bascule jusqu'à poser le menton sur ses mains, comme il le faisait jadis. Son expression était calme, amicale, intéressée, ne laissant rien voir de sa peur grandissante. Dans cette position, il pouvait presque imaginer derrière lui un ragoût d'agneau mijotant sur le réchaud.
« Dis-moi ce qui ne va pas. »«
Voilà ce qui ne va foutrement pas !»
dit Todd avec rage, en lui lançant un carton plié en deux. Le carton rebondit sur son torse et atterrit sur ses genoux. Doucander s'étonna un instant de la violente colère qui le secoua, de sa terrible envie de se lever pour gifler sèchement le garçon. Mais il garda son air bienveillant. Il comprit que c'était le bulletin scolaire du gamin, bien que l'école semblât prendre des précautions ridicules pour le cacher. Au lieu de bulletin scolaire ou carnet de notes, cela s'appelait « rapport trimestriel d'activité ». Il grogna, puis ouvrit le carton. Une demi-feuille tapée à la machine en tomba. Doucander la mit de côté pour plus tard et commença par étudier les notes du gamin.
« On dirait que tu as touché le fond, »
dit-il, non sans plaisir. Le gamin n'avait la moyenne qu'en anglais et en histoire américaine. Partout ailleurs, il n'avait que des F.
« C'est pas de ma faute !»
cracha Todd, venimeux.
« C'est la vôtre. Toutes ces histoires, elles me donnent des cauchemars, vous savez ça ? Je m'assieds pour ouvrir mes livres et je me mets à penser à ce que vous avez dit ce jour-là et je reviens sur terre quand ma mère me dit qu'il est l'heure d'aller au lit. Eh bien, c'est pas de ma faute. Pas la mienne. Vous entendez ? Pas la mienne !»«
Je t'entends très bien, » dit Doucander, prenant la page dactylographiée incluse dans le bulletin.
« Cher monsieur et madame Bowden, ce mot pour vous proposer une réunion à propos des notes de Todd au deuxième et troisième trimestre. Étant donné que Todd a jusqu'ici fait du bon travail, ses notes actuelles indiquent qu'un problème particulier doit avoir une influence néfaste sur son travail scolaire. Une discussion ouverte et franche est souvent à même de résoudre ce genre de problème. Bien que Todd ait passé l'examen semestriel, je dois vous prévenir que ces notes finales seront insuffisantes en certains cas si son travail ne s'améliore pas de façon radicale au dernier trimestre. Il se verrait en ce cas obligé de s'inscrire au trimestre d'été pour éviter un blocage entraînant de graves conséquences pour sa scolarité. Je dois aussi souligner que Todd est entré au collège et que cette année ses résultats sont à présent fort éloignés du niveau exigé dans notre établissement. Il n'atteint pas non plus le niveau indiqué par ses tests d'admission. Veuillez croire que je suis prête à trouver une date qui nous convienne mutuellement. Dans un cas comme celui-ci, en général, le plus tôt est le mieux. Sincèrement vôtre, Edward French.